il y a un chantier génial, mais je me méfie. On va dire que j'ai posé deux, trois choses sur le papier il y a quelques mois, mais que, je ne voudrais pas lui porter malchance, hein, mais que j'ai remarqué que ce qui semblait prendre forme entre deux livres, fichait le camp. Avant qu'un vrai nouveau projet de livre ne s'impose. Donc bon, voilà. Écoutez, on va voir.
On est dans l'entre-deux.
Voilà, exactement. On est vraiment dans l'entre-deux. Ouais.
C'est comme les 7 jours.
Tout à fait. On est dedans. Mais peut-être ça va durer 10 ans.
En tout cas, je vous remercie, Marie-Richaud, de cet entretien.
C'est une aventure incroyable. Ouais.
Séjour de naissance, c'est paru chez Sabine Pespisère. C'est un court texte, mais où il y a énormément de choses. Merci.
Merci à vous.
Tant de plaisirs nous ont surpris et perdument nous ont unis.
Si bien que moi, je ne sais plus
si je suis moi,
si je suis lui,
si je suis toi,
laquelle je suis.
Plus que d'amour, c'est une passion
dont on n'atteint jamais le fond,
qui nous fondit en tel frisson. Étais-je moi?
Étais-je lui? Était-il moi?
Lesquels étions? Si grands plaisirs font la vie belle, tant de plaisirs éclairent la nuit. Que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit nous ensemble unis.
Pour lui suis-je elle, lui pour moi lui. Étais-je donc celle, était-il lui? Quand cet amour nous confondit, toi qui m'as prise
et tant t'es prise,
suis-je bien celle?
Suis-je bien moi?
Était-ce bien lui?
Était-ce bien moi?
Ce grand frisson qui nous parcourt,
frisson de passion et d'amour.
Chaque fois que je suis dans tes bras, je ne sais plus
si je suis toi, je ne sais plus
si tu es moi.
Quand tu me serres contre toi, ça me bouleverse d'une telle joie. Quand tu me berces, suis-je encore moi? Suis-je bien à toi et tu à moi? Est-ce bien nous qui sommes à nous?
De plaisir nous ont surpris,
éperdument nous ont unis. Si bien que moi, je ne sais plus si je suis moi, si je suis lui, si je suis toi, lequel je suis.
C'est toujours Radio Libertaire, c'est la fin de cette émission Idéo et Débat qui était, ma foi, fort copieuse et fort riche. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous aurez pu remarquer la programmation musicale de l'entretien avec Marie-Richeux qui était constituée de morceaux issus du disque consacré à Serge Rezvani, donc une compilation produite par la fille de Jacques Canetti avec des reprises de ces très très belles chansons de Serge Rezvani par Dominique A, par Kali. Enfin, c'est un très beau disque que je vous invite à découvrir. Et puisqu'on parle de chansons, on va terminer en musique avec un morceau qui s'intitule « Toute la nuit » qui est de Sainte Victoire. C'est un single, on attend l'album avec impatience parce que c'est l'été, parce que ça fait du bien. Et ben, je vous propose de découvrir ce morceau de Sainte Victoire que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur Instagram sans difficulté. Allez, on y va, on se fait plaisir.
C'est simple, on court, on rit, on pédale, on roule, on vit, ravi. On démarre une nuit sans peur.
du jour, on pédale, on crie, on jouit et prie, on s'enjaille sur des morceaux pourris, on lâche le guidon, descend dangereuse, et je te regarde l'air amoureuse, seule sur la plage. On écarte les mains vers les étoiles, on danse en bois, il n'y a que toi que mes yeux voient. Attrape le ciel, dis-moi que je suis belle, rappelle-toi que tu m'avais.
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris. Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Libertaire 89.4. Le grand soir du mardi, émission du groupe libertaire La Rue, vous propose aujourd'hui d'aborder une question mal connue, le phénomène social hikikomori. Le groupe libertaire La Rue a organisé une conférence débat sur ce sujet en mars 2023 dans ses locaux situés au 10 rue Planquette à Paris. Nous avons réalisé une émission à partir de ces échanges. Hikikomori est un mot japonais, apparu dans les années 90, qui signifie littéralement se reculer, se replier. Ce terme désigne des personnes qui s'enferment dans un espace clos durant des mois, voire des années, le plus souvent dans leur chambre, et qui coupent tout lien non vital avec l'extérieur. Ce phénomène touche aujourd'hui des millions de personnes dans le monde, au Japon évidemment, mais aussi en Occident et donc en France. Selon la psychiatre Marie-Jeanne Guedj-Bourdiou, qui étudie ce phénomène en France depuis 2005, je cite « Non répertorié, il serait des milliers en France, des millions au Japon et présent désormais dans tous les pays du monde ». Céline, camarade du groupe La Rue, nous parle donc des hikikomori, une expérience vécue. Qui sont-ils? Quelles sont les raisons qui conduisent des individus à se retirer de toute vie sociétale?
Je suis membre aussi de l'association francophone de recherche sur les hikikomori de Marie-Jeanne Guedj. Et pourquoi je suis secrétaire de cette association? Eh bien parce que j'ai été hikikomori pendant 4 ans. En fait, j'ai commencé à me pencher sur le phénomène en 2016. J'ai été invitée par l'administrateur d'hikikomori, qui s'appelle AL, à participer à ce groupe. Alors, qu'est-ce que c'est un hikikomori? Alors, la définition la plus ancienne que j'ai pu trouver, elle date de la fin des années 90. C'est un terme japonais qui signifie se confiner, se retrancher. Et la définition à l'époque, c'était les hikikomori sont des adolescents ou jeunes adultes qui se sentent accablés par la société japonaise, qui ont le sentiment de ne pas pouvoir accomplir leurs objectifs de vie et réagissent en s'isolant de la société. Les hikikomori refusent souvent de quitter la maison de leurs parents et s'enferment parfois dans une même pièce pendant plusieurs mois, voire années, ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. Selon certaines estimations, il y aurait 1 million de hikikomori au Japon, soit une personne jeune sur 10. C'était en 90. Donc c'est un phénomène qui est d'abord apparu au Japon. Ce sont les premiers à avoir trouvé un terme pour définir cette population. Alors bien entendu, il s'agit là que d'estimations. En 2010, on comptait déjà 230 000 hikikomori, soit 0,2% de la population, et près de la moitié le serait devenu suite à des problèmes d'emploi ou de recherche d'emploi. À cette époque, on dit que 70% des hikikomori sont de sexe masculin et 44% ont jusqu'à la trentaine. 44% ont la trentaine maximum. Le phénomène n'est pas limité au Japon et des cas ont été également recensé beaucoup en Espagne, en Italie, en Corée du Sud et en France. Alors, dans les années 90, on ne parlait que d'adolescents. Et vers la fin des années 2010, il semble que les populations touchées, probablement les mêmes que dans les années 90, n'ayant pas trouvé de solution, sont considérées comme vieillissantes. Alors déjà en 2019, on parlait de 613 000 hikikomori pour les 40-64 ans.
Au Japon.
Mais alors j'ai aussi les estimations de Vozot Ikeda. Vozot Ikeda, c'est probablement le plus vieil hikikomori du monde, qui est toujours enfermé chez lui et qui passe son temps à recenser tous les hikikomori à travers le monde. Donc il est l'auteur de Sekai no Hikikomori, que je n'ai pas pu lire parce qu'il n'a pas été traduit. Il est en japonais. Alors selon lui, il est impossible de connaître avec précision la population hikikomori dans le monde. Il n'existe pas de définition vraiment stricte du hikikomori et pour cette raison, les gouvernements n'essaient pas de tenir des statistiques précises. Donc en 2018, officiellement encore, on compte 3% de personnes en retrait dans la population. Selon vos hôtes, ce serait plutôt 3 fois plus, 3,5 millions. Alors j'en ai profité pour lui poser d'autres questions. Quel est l'âge des hikikomori en moyenne? Alors c'est un gros mensonge de dire que l'hikisme ne touche que les jeunes. Il y a aussi des hikikomori d'âge moyen et des personnes âgées. En réalité, l'âge moyen d'un hikikomori sera le même que l'âge moyen de la population du pays. Moi ça m'a touché, j'avais 48 ans. Avant j'étais quelqu'un de très... avec une vie sociale très très développée. Je me suis mise en retrait. Après, on a coutume de dire que ça touche plutôt les hommes. Alors non, selon Vozot Ikeda, la proportion d'hommes et de femmes parmi les hikikomori est exactement la même que celle d'hommes et de femmes dans l'espèce humaine. Mais cela est dû au fait que les femmes hikikomori ne se manifestent pas. Donc il est totalement compliqué d'évaluer leur nombre. Mais oui, pour lui, c'est 3% de la population mondiale qui serait en retrait. Alors pourquoi au Japon? Parce que c'est un pays où il y avait beaucoup de pression scolaire. Le système japonais scolaire est particulièrement sélectif et tous les établissements du jardin d'enfants à l'université sont classés en fonction de leur niveau. Lors du passage de l'école primaire au collège, puis du collège au lycée, et enfin du lycée à l'université, les élèves sont soumis à des concours d'entrée dont la difficulté est déterminée par le rang, la renommée de l'établissement, et certains de ces concours sont si difficiles que nombre de jeunes, après leur sortie du lycée, sont obligés de réserver une année complète à l'étude. Il peut arriver aussi que la pression scolaire vienne des élèves eux-mêmes, à travers le phénomène digisme. Par ce terme, on désigne la mise à l'écart, le rejet par un groupe des éléments considérés comme étant hors normes, rejet qui peut se traduire par des vexations, des moqueries et même des violences. Et c'est un phénomène qui peut prendre des proportions extrêmement importantes. Cette forme de pression vient des étudiants eux-mêmes qui agressent et rejettent certains autres des étudiants pour leur apparence, leur condition physique, leur santé ou encore leur ethnie. Alors il y a de nouvelles causes d'isolement qui sont mises en lumière. Il y a aussi beaucoup d'événements familiaux ou extérieurs qui trouvent parfois leur origine dans l'enfance, qui privent l'individu de confiance en lui et l'empêchent de se sentir suffisamment en sécurité en dehors de la cellule familiale. Ensuite, on a la relation fusionnelle prolongée que certains aînés mâles entretiennent parfois avec leur mère, appelée popularement « mother complex ». Elle se traduit par une carence dans la socialisation, un retard de langage, l'intolérance aux frustrations, aux contraintes du monde extérieur. En fait, dans la société japonaise, la grande permissivité ou tolérance du milieu familial vis-à-vis de l'enfant, qui a été décrite par les psychiatres japonais sous le terme d'amae, fait chercher fait de chercher à être gâtée, choyée, protégée surtout par son entourage, et elle est renforcée par l'absence d'autorité et de rivalité paternelle. Pas de punition, pas de châtiment, une grande liberté individuelle dans les loisirs et les horaires. Il y a aussi donc toujours cette forte pression scolaire, l'attitude parentale de la maman qu'on appelle Kwaiku Mama. Ça désigne une mère obsédée par l'éducation scolaire, ou Mamagon, mère dragon. Alors, les symptômes de l'isolation, c'est beaucoup de personnes qui ressentent la pression du monde extérieur. Et un hikikomori réagit donc en se retirant complètement de la société, en évitant tout contact avec le monde extérieur. Il s'enferme dans sa chambre ou dans son appartement pendant des durées prolongées, souvent mesurées en années. Il n'a souvent aucun ami et passe la plupart de son temps à dormir, regarder la télé. La volonté de sortir de la société grandit généralement progressivement. Alors, quel traitement à tenir ? C'est un peu difficile parce que c'est pas considéré comme une maladie. En fait, ce qui va être considéré comme une maladie, c'est d'autres symptômes qui s'ajoutent. Alors, ce qui est mis en place au Japon, en général, les thérapeutes préfèrent attendre que l'adolescent récalcitrant réémergent dans la société par la force des choses et grâce au soutien à domicile. En revanche, les Occidentaux sont plus enclins à la consultation externe et à la psychiatrisation. Mais parce que ça s'accompagne toujours de troubles aussi, d'autres troubles psychologiques. Mais donc au Japon, on va avoir des thérapies familiales à domicile, tandis que en France, il n'y a pas ce type de procédé, il n'y a pas cette approche-là. Et il y a aussi le fait qu'un traitement médicamenteux est souvent associé sans être systématique, parce qu'il y a d'autres pathologies. Je vais prendre mon cas. On m'a collé jusqu'à 6 traitements différents. J'étais un zombie. Ni plus ni moins. Alors, on m'a détecté des tas de maladies psychiatriques. Ça allait de la bipolarité à la schizophrénie, ce qui est assez drôle hein, parce que j'ai quand même été suivie 20 ans par le même psychiatre qui a jamais détecté ce genre de choses chez moi. Donc là oui, j'avais 6 traitements, j'étais alors des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, des médicaments pour traiter la schizophrénie, la bipolarité. Alors, les symptômes des hikikomori ressemblent fortement à ce qu'on qualifie en Occident de phobie sociale. Dans la société actuelle, il semble que de plus en plus de personnes acceptent mal la pression du monde extérieur et peuvent ressentir une angoisse incoercible face à la contrainte relationnelle. Ainsi, ce n'est pas tant l'espace extérieur qui est anxiogène que l'implication relationnelle et non virtuelle qu'elle exige. Le hikikomori qui arrive à sortir va préférer, par exemple, une rue totalement déserte en pleine nuit pour aller chercher, je ne sais pas, des boissons, de la nourriture. Mais bon, le plus souvent, ils se font livrer à domicile. Alors, les effets de l'isolement, maintenant. Le manque de contact social et l'isolement prolongé ont un effet dévastateur sur la mentalité des hikikomori. Ils perdent leur capacité à vivre en société. Leur poste de télévision ou leur ordinateur deviennent alors leur unique point de référence. Et c'est là où je trouve que c'est très important, c'est que c'est quand même des gens qui sont présents, qui sont très présents, qui sont concernés par ce qui se passe à l'extérieur, qui s'intéressent. Alors par le biais des réseaux sociaux, bien sûr, mais ce sont des gens qui se documentent, qui se renseignent énormément. Alors, ça commence par Internet, après on a des contacts par le biais de choses comme le Discord. Des choses comme le Discord où finalement on parle ensemble, on n'écrit pas, on parle. On se retrouve tous ensemble, une dizaine, et on parle. Mais par exemple, jamais on ne se donnera notre numéro de téléphone, c'est pas pareil.
À travers les réseaux sociaux, c'est ça ?
Ah non, on parle à l'oral. On communique à l'oral, mais on ne va jamais se donner notre numéro de téléphone. Donc moi, ma rencontre avec les hikikomori, c'était en août 2016. Donc j'ai fait la connaissance d'Aël sur un groupe anarchiste. Parce que ça le passionne. Et on a discuté des nuits entières sur Messenger. Et au bout d'un moment, j'en avais marre, moi, de taper tant. Je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu veux pas qu'on s'appelle? Et là, il m'a dit, non, je suis Hikikomori. Qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, il m'a invité dans le groupe dont il était administrateur, le groupe Hikikomori France sur Facebook. Donc, c'est là que j'ai commencé à découvrir que tous les poncifs, tout ce que je voyais sur Wikipédia, le grand amour pour la culture japonaise et tout le toutim, c'était vraiment des poncifs, quoi. Non, moi, j'ai surtout rencontré des gens en souffrance, des vécus très douloureux, beaucoup de gens qui ont été victimes d'inceste, de viol. Alors, par exemple, dans le cas de d'Aël, il a été violé par sa babysitter. Après, il a été violé par son meilleur ami. Et donc, là, il a décidé de s'enfermer dans le chalet au fond du jardin de son père. Il n'en sortait plus. Pour lui, c'était quelque chose de très, très problématique. Il ne savait pas quelle était son identité sexuelle. Il n'en avait absolument aucune idée. Donc, les modes de communication, Facebook, Messenger, Discord et tout ça, ça servait aussi à avoir des relations amoureuses virtuelles. Et puis, donc, en 2018, j'ai eu un accident qui m'a enfermée chez moi. Hein, jambe cassée, deuxième étage, sans ascenseur. Donc là, je me suis retrouvée enfermée. Par la force des choses, petit à petit, les gens ont arrêté de venir me voir. Donc, je me suis retrouvée vraiment isolée. Et donc, j'ai commencé à être de plus en plus présente sur ce groupe Hikikomori, à intervenir, à parler, à discuter. Et donc, je suis devenue aussi administratrice. Alors, mon rôle sur le groupe et sur l'association, de recevoir les contacts de tous les journalistes, étudiants, chercheurs, thérapeutes, machin, qui veulent nous aider, qui veulent nous... En fait, qui veulent entrer sur le groupe. Mais non, on ne peut pas les laisser entrer sur un groupe de Hikikomori, c'est impossible. Parce que les Hikikomori se sentiraient trahis, ils se sentiraient agressés. Donc, en France, qu'est-ce qu'il existe? Il existe l'association de Marie-Jeanne. C'est la seule association qui se préoccupe du sort des Hikikomori. Moi, je continue à être très présente auprès d'eux. Donc, je suis toujours secrétaire de l'association. On a plusieurs groupes. Donc, on a Hikikomori privé, où on évite de parler. Alors, bizarrement, on est très concernés politiquement, mais on évite de parler de politique parce qu'il y en a quelques-uns que ça blesse. C'est surtout des témoignages, des partages d'expériences, des appels à l'aide. On a un forum Hikikomori, forum public, où là tout le monde peut s'exprimer. On a un groupe dédié aux familles des Hikikomori, parce que les parents ne savent pas du tout quelle attitude adopter quand ils ont un enfant qui reste enfermé, qui fait ce choix de rester enfermé. Et l'accompagnement des parents est très important. Et j'espère qu'un jour on parviendra à se rencontrer et pourquoi pas partager un repas. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions?
D'après ce que je comprends et ce que j'entends de ce que tu nous dis sur ce phénomène social, en fait, il y a des causes qui sont à la fois différentes, mais qui conduisent au même résultat. Tu me dis, par exemple, qu'il y a des personnes qui ont été traumatisées, qui ont subi de graves traumatismes enfants. Il y a des personnes qui se replient comme ça, stratégiquement dans un lieu parce qu'ils ont eu des problèmes au niveau scolaire, avec d'autres enfants, parce qu'ils ont été discriminés. Tu nous dis aussi qu'il y en a qui peuvent s'enfermer du fait de problèmes dans le travail, etc., etc. Donc, il y a un point commun, quelque chose qui lie toutes ces personnes qui se réfugient, qui s'enferment. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est une forme de protection, en fait?
Ah ben oui, 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 ils se protègent, bien sûr.
Ils se protègent du monde extérieur qui les agresse, en fait. Oui, oui. Et tu disais tout à l'heure, je vais une deuxième question. Tu disais, il y a des gens qui veulent aider. Et donc là, est-ce que quelque chose est possible, par exemple, au niveau de l'aide? J'imagine que c'est aussi en fonction des pathologies que tu dis, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont considérées comme ayant des pathologies, mais en fait, visiblement, peut-être pas. Voilà. On plaque sur les gens en fait une vision un peu psychanalysante du monde en fait. Mm-hmm. C'est ça tout que fait, je crois comprendre. Est-ce que ces personnes souhaitent être aidées? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour aider? Ou est-ce que c'est uniquement le groupe qui est fort clos et qui communique à travers les réseaux sociaux, par exemple, qui a la capacité d'être auto-aidant en fait?
Ils sont très méfiants vis-à-vis des interventions extérieures. Ils ont confiance quand qu'en eux, entre eux.
Donc l'extérieur ne peut pas être aidant. Est-ce que la famille peut être aidante? Est-ce que...
Oui. Oui. Alors, nous, ce qu'on conseille souvent aux parents, c'est d'être patient, de ne pas trop s'inquiéter, qu'on peut en sortir. Preuve. Je reprends par exemple le cas de d'Aël. Aël, lui, il s'en est sorti parce qu'il a, bah, il a rencontré sur les réseaux sociaux la nana de sa vie. Voilà, ils ont emménagé tous les deux, enfin tous les trois, avec la maman de la fille en question. Et ils se sont isolés tous les trois dans une petite maison dans la montagne. Eux, ils ont fait ce choix de rester enfermés, de pas se mêler à la société.
Est-ce qu'il y a une dimension sociale dans le hikikomori? Je veux dire, par exemple, des adolescents qui restent chez eux, il faut bien que quelqu'un subvienne à leurs besoins. Est-ce que ça concerne plutôt des gosses de familles plutôt aisées? Est-ce qu'il y a des hikikomori pauvres? Enfin, il y a quand même une nécessité d'organiser une survie.
Il y a absolument toutes sortes de hikikomori, aussi bien des pauvres que des riches, que des... Donc effectivement, ceux qui n'ont pas de parents pour les assumer, c'est très compliqué. Donc quand ils arrivent à un certain âge, en général, ils font la demande de RSA. Et pour ceux qui le peuvent, aussi une demande d'AH, d'allocation adulte handicapé. Mais comme le fait d'être hikikomori n'est pas considéré comme un handicap, là, il faut qu'il y ait une autre pathologie.
Il y a des médecins qui se penchent sur d'éventuels traitements ou qui ont élaboré des traitements, enfin, où c'est pas du tout pris en charge par la sexoc.
Alors, je laisse la parole à Marie-Jeanne, là, parce qu'elle est mieux placée que moi pour
peut-être
en parler.
Un mot pour vous présenter, peut-être.
Bon, je suis Marie-Jeanne Gadge-Bourdiot, je suis psychiatre, donc je connais Céline, parce que Céline est venue à la réunion de notre association, et puis ça m'intéressait beaucoup l'exposé de ce soir, que je trouve remarquable, absolument remarquable, et vraiment, je vous remercie, parce que c'est un tout en nuance sur cette question difficile, en effet, entre l'association, la famille, les traitements possibles et tout. Au niveau du nombre, je suis d'accord, on a du mal à évaluer. Moi, le seul chiffre en France auquel je me réfère, c'est que je parle de chiffres qui ont été donnés en 2017, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué depuis 2017, hein, d'avoir des chiffres plus juste, je dirais. Et en 2017, il y avait 1 800 000 NEET, c'est-à-dire N-E-E-T, ça veut dire sans emploi, sans stage et sans études. Donc c'est un acronyme anglais, quoi. Il y en avait 1 800 000 en France, le pays le plus élevé au niveau de l'Europe. Et dans ces 1 800 000, dans les 16-25 ans, il y a 400 000 jeunes qui échappent à tous les radars. Ils n'apparaissent dans aucun radar. Donc, dans ces 400 000, combien y a-t-il de hikikomori? Sûrement une bonne quantité. Donc, c'est quand même important. Il y avait eu une émission à la télé, enfin, à laquelle j'avais participé. À la suite de cette émission, on a eu 400 demandes de consultation en 2 ou 3 mois. Donc, c'est vraiment important. On a des demandes sans arrêt. Enfin, vous le savez bien, ou tu le sais bien. Et voilà, donc c'est un phénomène vraiment important. Au niveau de la révolte contre la société, la révolte contre la société est toujours là, mais je dirais que souvent elle apparaît dans un deuxième temps, c'est-à-dire que d'abord ils peuvent pas faire autrement, hein, que de s'enfermer, et puis après quelques années d'enfermement ils disent mais c'est moi qui l'ai choisi, etc., cette société est pourrie et tout. Et puis chaque fois qu'il y a des événements sociaux, ben comme il y a en ce moment par exemple, ça renforce l'idée que ben qu'est-ce qu'on va faire à s'intégrer dans cette société. Et c'est vrai qu'ils sont très très forts sur les conceptions géopolitiques, les analyses politiques, enfin c'est étonnant, ils sont complètement branchés là-dessus. Donc au fond ils sont pas vraiment enfermés, ils sont vraiment aux prises avec le monde entier, et c'est ce qu'ils revendiquent, et c'est ce qui est assez passionnant d'ailleurs. Alors les modes de prise en charge, c'est vrai que la prise en charge, enfin les Japonais ils ont beaucoup réfléchi à ça, beaucoup publié. Donc ils disent, un, il faut s'occuper de la famille. Deux, il faut recevoir le jeune en consultation et le traiter. Trois, il faut l'inclure dans un groupe thérapeutique. Quatre, il faut l'inclure dans un groupe de socialisation. C'est des étapes assez intéressantes. Le premier point, c'est en effet la famille, quoi. La famille, parce que la famille, ils sont demandeurs d'aide, ils font toujours des interventions par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire la mère est souvent très fusionnelle avec le jeune, elle s'en rend pas forcément compte, la famille ne perçoit pas à quel point faire pression est aggravant. C'est-à-dire, quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce que tu vas t'inscrire à la fac? Quand est-ce que? Et tout ça, ça les repousse continuellement, au niveau des plus jeunes.
Hein. Vous avez demandé... justement, je m'adresserai à la psychiatre, puisque j'ai bien vu, il y a deux raisons. C'est soit on a peur de la société, ouais. Soit on a peur de l'autre. Et est-ce que c'est la peur de l'autre qui est prime ou la peur de cette société qui inquiète? Voilà. Et est-ce que c'est tous les deux des icônes en fonction de la raison?
Les deux, ça dépend des cas. Hein, ça dépend des cas. Il y a des gens qui ont très très peur des autres et puis qui ont peur. Ils ont beaucoup décrit ça au Japon, le peur que les autres, par exemple, sentent la sueur. Alors c'est une terreur au Japon que les autres gens sentent la sueur dans le métro et tout. Moi, j'ai rencontré ça aussi à Paris, des jeunes qui sortent pas parce que ils ont peur. Bon, des jeunes qui ont été, enfin, t'en as parlé tout à l'heure, mais qui ont été maltraités, tout ça. Moi, dans mon expérience, il y en a un sur deux. Un sur deux qui a subi un harcèlement scolaire, un machin, tout ça. Et là, ils ont peur de se retrouver dans la situation d'être agressés par les autres. Et après, ça se mêle. C'est-à-dire que la critique par rapport à la société s'ajoute. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de grains à moudre aujourd'hui sur ce sujet, quoi. Enfin, quand ils se mettent à dire, mais c'est insupportable. Moi, j'ai pas beaucoup rencontré d'éco-anxiété, hein. L'anxiété sur le monde au niveau écologique et tout. Par contre, c'est la peur d'être manipulé, la peur d'avoir des dossiers qui circulent sur Internet. Il y a beaucoup de hikikomori qui veulent absolument pas ni du dossier médical partagé, ni... Ils sont terrorisés par ça, hein.
Je vais dire que pour moi, je vais essayer de m'exprimer un petit peu clairement, je trouve qu'on vit aujourd'hui dans une organisation sociale, une organisation du monde du travail qui vise à isoler les gens justement, à détruire les collectifs, à mettre les gens chacun dans leur petite bulle. C'est comme ça que fonctionne maintenant le management, hein, qui est vraiment la destruction de tous les collectifs, qui est absolument insupportable. Et le résultat de ça, c'est que ça va produire une autre réclusion. Éventuellement, parce qu'on peut ne pas supporter l'horreur de cette organisation sociale, qui consiste précisément à séparer les gens les uns des autres, mais avec un discours très orwellien, très mensonger. C'est-à-dire qu'on va vous parler de communiquer, de bienveillance, de je ne sais pas quoi, alors que le monde du travail en particulier n'a jamais été aussi pervers, aussi destructeur. Enfin, le nombre de gens qui sont en état de burn-out, d'épuisement psychologique, est absolument phénoménal. Et ça va produire ce phénomène social d'isolement, peut-être en réponse à cet autre isolement qui est organisé par le politique et l'économique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, alors, par exemple, quand j'ai repris le travail, on m'a dit, reprends à mi-temps. Et bien, en fait, moi, c'est un mode de fonctionnement qui ne me convenait pas du tout. Parce que à mi-temps, ça voulait dire que l'autre moitié du temps, je rentrais, je me couchais. Donc j'ai pris la décision avec mon médecin de reprendre à plein temps. Ma responsable m'a dit non, t'es pas capable. J'ai dit c'est pas toi qui décides, c'est moi. Donc je reprends à plein temps. Et là, elle m'a dit un truc qui m'a démoli. Elle m'a dit, par contre, je te préviens, tes collègues, c'est pas tes amis, c'est tes collègues. Alors qu'on a toujours été une équipe très, très, très soudée. D'où le fait que je ne communiquais plus avec eux.
Voilà. Mais d'où la perversité totale, encore une fois, de cette organisation du travail.
Tout à fait. Hein?
Nous allons faire une pause musicale avec une chanson de The Cure. Radio Libertaire 89.4, le grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue vous propose ce soir une émission sur les hikikomori. Cette deuxième partie sera consacrée aux questions-réponses.
Comment s'opère la transition ? À partir de quel moment les personnes vont revendiquer ce terme et vont conscientiser politiquement ? Vont se forger une identité et vont forger une conscience politique autour de cette condition. Comment ça s'opère généralement ? Est-ce que c'est toujours des rencontres sur Internet ?
Toujours.
Est-ce que ce sont des personnes qui étaient déjà politisées avant et qui finalement, en lisant des choses sur Internet, vont se dire « Tiens, ça correspond à ma situation ?» Comment ça se passe ?
C'est à double sens. C'est vraiment les deux. Moi, quand je suis entrée sur le groupe Hikikomori, ça correspondait pas du tout à ma situation. J'étais plutôt quelqu'un de très extraverti. Et par la suite, je le suis devenu plus du tout. Je crois qu'on est assez dépendant des réseaux sociaux, quand même. Il y a quand même un besoin d'aller vers l'autre à travers le réseau social. Il y a besoin de se retrouver entre nous, de faire partie d'un groupe bien défini et de pouvoir échanger sur ce qu'on ressent.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des éléments déclencheurs
qui font qu'à un moment donné, la personne qui est donc foreclose et qui communique de façon virtuelle avec des personnes qui la ressemblent, enfin, sont, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des éléments déclencheurs, par exemple, qui font qu'à un moment donné, la personne va dire bon, eh bien, je vais peut-être renouer le contact, ou je vais accepter de rencontrer quelqu'un comme moi, physiquement. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs qui à un moment donné, vont permettre ça, ou comment ça se passe?
Alors, moi, les deux hikikomori que j'ai rencontrés, c'est parce qu'on parlait beaucoup en privé, et ils ont décidé de venir me voir, comme ça. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y avait de leur part une recherche d'amour que j'étais pas en mesure de donner.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes rencontrés en vrai avec les avec tes deux correspondants hikikomori?
Eh bien, je pense que je les ai mis en difficulté. Je les ai mis en difficulté parce que y en a un qui me disait je vais t'aider à sortir. Et en fait, on s'est retrouvés dans le bus. Moi, j'étais sur le fauteuil roulant. Et il n'a pas supporté du tout le regard des gens sur moi. Donc, il est allé se planquer au fond du bus. Donc, c'était assez destructeur, en fait.
Et vous ne vous êtes plus revus après, ou vous avez continué de vous voir?
Non,
quand
vous
même
êtes plus revus.
Vous êtes plus revus.
Du coup, si je peux me permettre, comment fait-on, en tant que thérapeute, pour arriver à leur redonner confiance, à faire en sorte qu'ils fassent un petit pas vers quelque chose de l'ordre de la communication?
Bon, il y a l'énorme travail avec les parents dont on a parlé. Et puis après, quand ils viennent en consultation, il y a toutes sortes de choses qui sont mal formalisées, mais qui est de s'appuyer sur une lecture, sur des capacités à faire des travaux manuels, sur... Il y a un jeune, une fois, qui est venu me voir, et puis il y avait des élagueurs de la ville de Paris qui coupaient l'arbre en bas, et puis après, la séance suivante, il me dit « j'ai parlé avec les élagueurs, c'est intéressant et tout, et moi, mon travail, c'est de valoriser ça, et non pas de pousser au niveau d'une, je sais pas quoi, de quelque chose, de reprendre des études, tout ça, ça quand on peut ». Voilà, donc il y a bon, toute une façon d'être sensible aux détails. Hein. Enfin, je pense que je dirais la même chose de la vie courante pour ne pas être tout le temps le méchant, le mauvais, qui fait tout mal, quoi. Des petites choses. Moi, je considère que c'est vraiment très important, les petites choses, et puis arrêter de leur mettre la pression sociale, quoi. C'est pas une affaire de pression sociale, c'est une affaire de... plutôt de retrouver un bonheur partagé, quoi. C'est ce qui compte, c'est le bonheur partagé.
Excusez-moi, j'arrive pas à comprendre ce discours, en ce sens où il ne faut pas qu'on leur mette la pression sociale, etc., etc. Mais depuis tout à l'heure, je n'entends qu'une chose, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les sorte de là. Mais à vouloir les aider, moi, je n'en connais absolument aucun, je ne connais pas ce sujet. Il y a certainement un grand nombre de personnes qui ont besoin d'aide, qui sont à même de la demander ou pas. Mais est-ce qu'il n'y en a pas une certaine proportion qui veut juste rester seule, hors du monde, hors de la société, qui ne réclame pas la moindre aide, voire qui éventuellement refuse une aide qu'on peut leur apporter, quelle qu'elle soit, financière, médicale, sociale, psychiatrique, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens... Est-ce qu'on n'essaie pas d'imposer des choses à des gens qui cherchent ou qui ont cherché à fuir ces choses? Je ne sais pas si je suis claire, pardon. Il y a un paradoxe, enfin une contradiction, quelque chose. Il y a...
C'est-à-dire, c'est par rapport à la remarque de tout à l'heure, c'est des gens, quand c'est quelqu'un qui veut être tout seul, qui revendique ça... pour autant qu'il soit dépendant des autres qui lui fournissent de l'argent, de la nourriture, etc., on est quand même là dans un paradoxe qu'on peut quand même souligner. Et puis, ça dépend du moment où on intervient. Il y a des tas de gens où c'est pas le moment. Il faut attendre. Pour l'instant, ils n'ont pas de souffrance, ils n'ont pas de demande. Tout le monde trouve que on les laisse comme ça. On ne va pas les forcer à les sortir de leur enfermement. Mais l'absence d'autonomie est quand même importante, enfin.
J'avais une question rapide. Est-ce que c'est un phénomène urbain ?
Oui, c'est urbain. Oui, tout à fait.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que en milieu rural ou périurbain, ça n'existe pas.
Ils sont très isolés. Non, c'est pas. C'est plutôt en ville, oui.
D'accord. Je vais compléter sur ça parce que tu parles du Japon. C'est vrai qu'au Japon, les villes, c'est des monstruosités. Est-ce que c'est pas une critique de la ville et de l'urbanisme qui fait que les gens ne supportent plus ça ? En milieu rural, les gens, ils sont isolés, peuvent s'isoler, être tranquilles, quoi, sans avoir à s'enfermer. Il suffit de sortir, au contraire. Ils sortent, ils sont libres. Alors que dans les villes, si tu sors, t'es comme enfermé dans une espèce de mégalopole avec des... T'es bousculé. Donc, l'autre est une agression. Alors qu'on vit dans les campagnes, non. C'est pour ça que je veux revenir, c'est un phénomène surtout urbain, quoi. Mais ça met en critique notre société urbaine, quoi. Les grandes métropoles, mégalopoles, qui sont inhumaines. C'est une vie d'inhumain. Et que je peux comprendre ces réactions. Il y a d'autres réactions à ça, évidemment, mais ça, c'en est une. Voilà. Ou dire, on déshumanise, les villes sont déshumanisantes. Il n'y a plus d'humanité. L'autre est un rival, comme dans le travail. L'autre est un adversaire, un rival. C'est la lutte pour la survie, entre guillemets, dans les villes, et pas dans les campagnes. Au Japon, d'autant plus que là-bas, c'est quand même beaucoup de gens se suicidaient parce qu'ils rataient leurs examens. Il y a vraiment la lutte pour la survie, le plus fort, le plus grand, machin. Il y a quand même, et c'est peut-être pour ça que ça a pris au Japon au départ, mais qu'on peut l'appliquer à partout, quoi, malgré la culture qui n'est pas là. Maintenant.
Je pense aussi que c'est les jeunes hikikomori sont. Enfin, il y a un japonais qui a écrit un article, je trouve assez intéressant, quand il dit qu'ils sont isolés, mais en fait, ils sont dans une impossibilité de supporter la solitude. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est avoir des réponses à tout le temps. Et les parents les entendent et ils crient et ils parlent avec l'Australie, les États-Unis, les machins. C'est-à-dire que rien que d'aller à une consultation à 20 minutes à pied, où on est tout seul avec ses pensées pendant 20 minutes, eh ben, ils ont du mal à ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été habitués depuis l'enfance à ce que tu dis, enfin, c'est-à-dire faire, il faut avoir des activités, des machins, qu'ils ne supportent pas une rêverie tranquille, isolée dans sa tête. Et finalement, l'isolement du hikikomori, c'est aussi être tout le temps avec la capacité d'avoir quelque chose sur Internet, quoi. Donc c'est un peu de notre société actuelle où on supporte pas de ne rien faire, quoi. Et eux, ils sont là-dedans, enfin. En tout cas, les jeunes, hein, c'est peut-être pas la même chose.
Si l'indépendance, enfin, le fait de ne pas être indépendant compte comme un critère... Attention, à ce moment-là, est-ce que quelqu'un qui est pauvre ou au chômage ou qui a besoin du RSA pour survivre et une personne qui a un trouble, forcément ?
Non, le RSA, c'est une indépendance. Moi, je pense que le RSA, l'allocation adulte handicapé, tout ça, ça donne aux gens une indépendance et non pas une dépendance. Mais là, on parle de la dépendance par rapport à la famille, par exemple. Il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille qui soit là pour assurer, pour s'occuper du logement, pour s'occuper de la nourriture. Et là on n'est plus dans une revendication philosophique, enfin.
Est-ce qu'éventuellement... pour savoir si j'ai bien tout compris, ne serait-ce que dans les grandes lignes, est-ce qu'on pourrait traduire hikikomori en français par asocial ? J'entends par là, on parle d'indépendance ou de dépendance, on parle d'agression de la société dans les deux sens. La société agresse la personne agresse la société, l'incompréhension totale, etc., etc. Non ? À ceci près que l'hikikomori ne sort pas ou... quasiment pas de chez lui. Non, c'est pas...
L'étymologie est quand même intéressante, c'est-à-dire que ce que disent les Japonais, je ne connais pas du tout le japonais, mais Iki, c'est replier, et Komoru, c'est faire une retraite. Voilà, c'est parce que la retraite, ça existe beaucoup dans la culture japonaise. Mais ce que d'autres Japonais disent, c'est que Iki, c'est être refoulé, c'est-à-dire que c'est être à l'intérieur, mais refoulé par l'extérieur. Et ça, ça me semble intéressant comme étymologie. Oui.
Est-ce que cette ancienne vie te manque ?
Pas du tout. Non, non, pas du tout.
Pourquoi ?
Ben, parce que, avant d'être hikikomori, j'étais quelqu'un de très, très vivant socialement. Et c'est ça que je voulais retrouver. Pour moi, ça a été une souffrance d'être isolée. C'était une obligation, enfin, c'était un... C'est devenu un choix, mais au départ, ça m'a été imposé.
En fait, ça pourrait être... Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être une forme de repli stratégique, d'une certaine façon, pour se protéger du monde qui apparaît comme étant hostile, et pour se reconstruire en trouvant en soi-même l'énergie nécessaire et les conditions nécessaires à une reconstruction qui nous permet après peut-être de nouveau ouvrir les portes. Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça ?
Oui, je pense aussi. Ouais. Et y a quelque chose sur lequel je voulais revenir aussi, c'est par rapport aux pathologies. Y a une pathologie qui revient assez souvent, c'est l'obésité. Parce que du coup, ce sont des gens qui ne font pas d'exercice physique, puisqu'ils sont enfermés, qui mangent, donc qui ne se dépensent pas. Et donc, il y a aussi ce genre de problématique. On considère qu'à partir de 6 mois d'enfermement, on est hikikomori.
Oui, comme le terme d'hikikomori est récent au Japon, c'est un terme qui est écrit uniquement en phonétique japonaise. Il n'y a pas de caractère chinois, il n'y a pas de kanji, puisque je vois que vous en devez sur votre cahier, les kanji. Donc c'est un terme qui est récent. La question que je vais poser, c'est de savoir à partir de quand on a commencé à identifier les hikikomori, ou au Japon ou en France.
On dit 1998, le premier article de Saito, et on commençait à en parler dans les années 90, et ça avait été précédé par des travaux sur l'apathie de l'étudiant, sur, je crois, les hijime, là, dont on parlait tout à l'heure, là, le harcèlement, et puis après, le mot hikikomori, je crois, a été forgé en 1998.
Non, mais j'allais parler parce qu'il va bientôt être 9h30. On va peut-être arrêter vers 9h30. Après, on pourra discuter entre nous, devant un verre à la main. Et une question que j'allais poser à Céline, c'est comment tu entends être anarchiste et qui te mourit, comment c'est compatible dans ton esprit ?
Eh bien, c'est-à-dire que j'ai toujours continué à faire de la propagande, à poster tout ce qui me semblait important, à défendre mes idées. Voilà, et après, je reconnais que j'étais devenue complètement dépendante des réseaux sociaux. C'était un besoin de tout dire, de tout faire sortir, de tout...
Maurice, c'est pas un individualiste.
Non, c'est peut-être même le contraire.
Non, je crois qu'il y a entre... Je vois sur le groupe, on est environ 500. Non, il y a une solidarité qui est incroyable. On ne se laisse jamais tomber.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une communauté hikikomori, une communauté définie comme les communautés virtuelles, enfin Internet
Dès lors où on appartient à un groupe, de toute façon, oui, à une communauté.
Alors, tu dis ça utilise beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une critique sur les réseaux sociaux ? Puisque les réseaux sociaux, c'est de l'économie d'attention, c'est des collectes de données avec de la publicité ciblée, c'est des puits sans fond, etc., etc. Est-ce qu'il y a une critique dessus ?
Non, parce qu'on n'a pas de... Sur le groupe Hikikomori, en tout cas, il n'y a pas de communication sur la politique.
Par exemple, est-ce que vous utilisez des alternatives à des choses comme Twitter ou Facebook ?
Oui, notamment le Discord. Moi, j'utilise pas mal Mastodon.
Mais les autres aussi ?
Les autres sont surtout sur le Discord.
D'accord. Et ça, c'est quelque chose, c'est de l'ordre du... Bah, c'est comme ça, vous ne l'avez pas choisi, ou alors est-ce que vous avez choisi Discord en connaissance de cause?
Alors, j'ai l'impression que là, ils se leurrent totalement en se disant que le Discord, c'est un endroit protégé. Alors que non.
Il est 9h30, on va peut-être arrêter le débat.
Il y a tellement de trucs à dire. Moi, j'ai encore plein de questions.
Eh ben, tu peux poser des questions. Tu peux continuer à poser des questions et enregistrer avec les gens.
Selon comme tu veux. Tu te sens fatigué, tu veux continuer?
Alors, si tu as remarqué, donc j'essaie de gratter depuis tout à l'heure pour savoir si ce n'était pas juste un phénomène politique qui peut être expliqué politiquement et, ou expliqué sociologiquement. On peut, même en termes de carrière, comment on y rentre, quelles sont les étapes, comment on en sort. Est-ce qu'il y a une conscience politique? Est-ce qu'il y a une réflexion politique de la part des personnes qui sont hikikomori? Et quelles sont les revendications, s'il devait y avoir aussi des revendications de ces personnes?
Alors, dans ceux que je connais bien, oui, il y a une conscience politique. Et notamment, il y en a un qui intervenait souvent à chaque fois que je postais quelque chose, mais il répondait d'une façon naïve. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, pour lui, je poste beaucoup de choses sur les femmes battues. Énormément. Et lui, sa réaction, c'était de dire, mais il y a aussi l'enfant dans l'histoire. Donc, si une femme battue, elle quitte pas son mari ou qu'elle porte pas plainte, on doit lui retirer son enfant. Boum! En fait, c'est par rapport à son vécu à lui qui réagit comme ça. Donc là, il a des cohortes d'anards qui lui tombent sur le dos, qui le traitent de facho et tout ce que tu veux. Et donc, en privé, il me pose des questions. Il me dit, mais pourquoi on me parle comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Donc, je lui explique de façon plus pédagogique. Et je lui conseille des bouquins, des vidéos, des choses comme ça. Il s'intéresse, il lit, il réfléchit. Puis finalement, ça lui plaît. Donc, par exemple, Bakounine n'a plus de secret pour lui. Il a tout regardé Tancrède Ramonet. Et là, maintenant, oui, il se sent anarchiste.
Comment vous gérez les conflits?
Moi, je me mets en retrait.
C'est juste ton cas personnellement? Ou est-ce que vous avez réfléchi à la question pour gérer les conflits au mieux?
Alors, en général, les sources de conflits, c'est assez radical, c'est qu'on les dégage du groupe. Voilà.
On n'est plus dans l'hikikomori, hein. Quand on est dans le conflit et l'expression du conflit et tout ça, on est dans la vie sociale banale, on n'est plus dans l'hikikomori.
Nous remercions Céline et les participants et participantes à la conférence débat, et en particulier la psychiatre Marie-Jeanne Gage-Bourdieu, qui a partagé avec nous le fruit de ses recherches. Nous remercions aussi Camille pour la réalisation du montage et Frédéric qui assure la transmission. Prochain rendez-vous, le mardi 18 juillet à 19h30. Bonne soirée à toutes et à tous.
et ça se quitte aux amis. Quelquefois ça se regrette, retourne voir ta voilette, que je te parle du pays. Ça part dans les étoiles pour un rien, ça cavale dans des foutus endroits. Quand ça retombe, ça rigole, quand aux ailes, ça se recolle, et ça serre plusieurs fois. Ça choisit des ivresses qui laissent un goût de revenez-y. Ça y revient et ça tarde au bout d'une cocarde accrochée à la nuit. Ça s'envoie des promesses qui cessent dès que tourne le vent. Tout juste si ça dure, 8 à 16 mesures, la chanson des amants.
l'instant des longs silences et des notes assourdies. C'est le chemin de l'enfance qui se cogne au dragon gris. Calmement dans la nuit fauve, des humains posent leur corps. Les rêves glissent et se sauvent comme de pauvres décors. Sur les pavés qui somnolent, des chevaux coulent sans bruit.